RMC.
Oh, c'est gonflé. Oh, mortel. Donne-moi ton short.
Basket time.
On fout ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après, on perd, c'est pas grave, c'est la vie.
C'est fini. Champion d'Europe de basket, messieurs, dames. Jacques Monclar est aux anges. On est tous aux anges.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC tous les mardis en podcast sur rmc.fr avec un épisode spécial Paris Basketball aujourd'hui. Salut Stéphane Brun.
Salut Pierrot.
Salut Arnaud Valadon.
Salut Pierre.
Salut Fred Weiss.
Bonjour.
On va parler de basket français un peu, ça fait du bien.
Ça fait du bien.
On a une équipe, on a une finale européenne 100% française entre Paris et Bourg. C'est bien, non ?
Non, mais tu n'as jamais vu, ça fait très longtemps que ça n'est pas arrivé, c'est fantastique.
Et pour en parler, nous allons accueillir dans un instant le patron du Paris Basketball, l'Américain David Kahn, qui sera avec nous pendant un quart d'heure avant cette finale, ce premier match de la finale de l'Eurocup. La finale, vous allez nous en parler aussi tout à l'heure, nous dire qui est favori, qui remportera cette rencontre. Et puis, dans la partie historique, nous referons l'histoire d'une équipe de basket parisienne qui a marqué l'histoire. Il y en a quelques-unes.
Hein. Je ne comprends pas la question, c'est bien parisienne la question, c'est ça ?
Ouais, parisienne.
Ouais, non, c'est juste pour être sûr. Non, comme ça, on a eu une divergence d'opinion avec Stéphane.
Si tu veux nous parler de
France,
parce que moi, je vais parler de Nanterre.
Oui, ça marche. Oui, ça marche.
D'accord.
Don't worry.
Merci.
Et donc Limoges, par extension, c'est un peu parisien aussi.
Alors Limoges, ça fait loin quand même pour la banlieue parisienne. Hein. Le quiz, je vous donne tout de suite le thème. Le quiz est consacré au basket à Paris.
Ah,
basket à Paris, c'est assez large. C'est assez large. Hein.
Le quai 54 et tout ça, ça rentre en compte ?
Non, on n'est pas allé jusque-là, mais par contre, la NBA à Paris, ça rentre dans le quiz. C'est donc un Basket Time spécial Paris Basketball. Vous téléchargez votre Basket Time tous les mardis sur rmc.fr.
Le Paris Basket est la belle histoire de ces dernières années du basket français.
We have a very ambitious project here in Paris.
Le Paris Basketball a joué son dernier match au parquet de la Halle Carpentier.
Soirée pour l'histoire, pour le Paris Basketball. Un adieu à la Carpentier sur une victoire.
C'est le grand projet urbain qui doit transformer le quartier de la Porte de la Chapelle.
It's very challenging. Competing at the highest level of European and world basketball.
Et ça c'est pour tout le monde. Oh, quel exceptionnel!
Tyson Ward qui vient massacrer le cercle.
Mis dans le cercle là. Oh là 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 là.
Le nouveau prince de Paris, Nadir Hiti.
Il reste 2 secondes, le décalage. Que voulez-vous faire face à Nadir Hiti? Aujourd'hui, le plus fort, c'était Paris.
Et nous recevons avec grand plaisir David Kahn, le copropriétaire du club créé en 2018. Bonjour David.
Hey, mon grand plaisir. Merci.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le club créé en 2018, on le rappelle, on va rappeler tout cela avec Arnaud Valadon dans un instant. Un club très ambitieux et qui dispute une finale d'Eurocup. Donc ce soir pour le premier match et ensuite pour les matchs 2 et 3, ce sera vendredi et lundi prochain.
Lundi, ouais.
Alors Arnaud, avant de démarrer l'interview avec David Kahn, rappelle-nous quel est ce projet de Paris Basket et puis quel est le parcours de David.
Alors David Kahn a 62 ans, originaire de Portland dans l'Oregon. Il a aussi mis un pied dans le journalisme avant d'être avocat et puis dirigeant de basket. Dans les années 80, il a couvert pour The Oregonian les Trailblazers. Il a été témoin direct de la draft de Sam Bowie à la place de Michael Jordan en 1984. Dans les années 90, il devient avocat au sein d'une firme qui représentait les grandes ligues sportives américaines. 95, entrée chez les Pacers où il restera 9 ans jusqu'au poste de general manager. On rappelle qu'à l'époque, les Pacers sont une belle équipe avec Reggie Miller. Larry Bird aussi était là dans le staff, coaching staff. Finale NBA en 2000, perdu contre les Lakers de Kobe et Shaq. Ensuite, David Kahn sera en poste à Minnesota de 2009 à 2013 en tant que président des opérations basket, des années difficiles de reconstruction après le départ de Kevin Garnett en 2007. La star de l'époque est Kevin Love, machine à double-double, phénoménal mais souvent blessé. On se souvient qu'en 2009, il a notamment drafté Ricky Rubio, déjà un amoureux, on va dire, de l'Europe, le phénomène espagnol, en même temps également que Johnny Flynn. Il quitte la franchise en 2013 et va donc se lancer 5 ans plus tard dans une aventure parisienne en compagnie d'Eric Schwartz, ancien actionnaire minoritaire d'Atlanta. Eric Schwartz qui est toujours aussi copropriétaire du Paris Basketball. 2018, Paris rachète les droits sportifs de Hier Toulon, club en probé qui coule financièrement. Le Paris Basketball voit donc le jour, une montée en première division en 2021 juste après le Covid. Un premier trophée cette saison avec la Leaders Cup et un club qui casse les codes. En probé, le Paris Basketball a joué à Bercy devant 7000 personnes contre Aix-Maurienne, c'est pas l'affiche du siècle. Ils ont investi Roland Garros pour jouer sur le central en octobre 2021. 2022 et depuis février, l'Adidas Arena, 8000 places, clé de voûte du projet.
Alors on va justement détailler ce projet avec David Kahn. On veut tout savoir de votre ambition, David. On va faire l'interview en anglais pour plus de commodité, pour que ce soit plus simple. La première chose, c'est qu'il y a cette finale ce soir d'Eurocup, 6 ans seulement après la création du club. Est-ce que vous vous attendiez à une ascension si rapide, David?
Well, if you're asking about 2018.
Si vous m'interrogez sur 2018, vous savez qu'à l'époque, nous ne savions pas qu'il y aurait une pandémie. Elle aurait annulé une saison. Il est donc difficile de remonter dans le temps, de revenir en arrière et de prévoir ce qui se serait passé. L'autre chose que nous ne savions pas, c'est que la nouvelle arena, qui était vraiment l'élément central de ce projet, elle serait livrée avec 18 mois de retard, ce qui a vraiment retardé notre capacité à construire le club aussi rapidement que nous le voulions. Si on tient compte de tout cela, il se peut que nous n'ayons pas respecté notre calendrier. Peut-être que cela aurait pu se produire plus tôt, mais quoi qu'il en soit, nous sommes très heureux et satisfaits d'être ici aujourd'hui.
Donc David espérait un développement encore plus rapide. Alors maintenant, ce qui pourrait accélérer les choses, ce serait de gagner l'Eurocup, puisque le club qui gagne l'Eurocup est automatiquement qualifié en Euroleague l'an prochain. Maintenant, l'Euroleague, c'est un autre monde. Est-ce que le Paris Basketball disputera l'Euroleague en cas de victoire?
We don't know yet.
Nous ne savons pas encore. Nous ne savons pas. Je n'ai pas parlé à l'Euroleague depuis novembre, lorsque j'ai rendu visite à la nouvelle directrice générale. D'après ce que j'ai compris, si vous gagnez l'Eurocoupe, vous pouvez jouer en Euroleague l'année suivante. Mais nous ne connaissons pas les détails de ce que sera notre promotion. Nous ne savons pas s'il s'agira d'une wild card. Nous ne savons pas si ce serait peut-être plus que cela. Nous n'avons aucune idée des revenus qui reviendraient au club en jouant en Euroleague. Nous avons donc besoin de beaucoup d'informations pour prendre la meilleure décision possible pour le club.
Mais c'est votre ambition?
Nous voulons jouer au plus haut niveau du basketball européen, bien sûr. Je l'ai dit dès le premier jour. Mais nous voulons aussi avoir un business stable. Il est très important pour nous d'avoir un véritable business autour du club. Je pense qu'il est nécessaire pour nous, comme je l'ai dit, de recueillir plus d'informations sur ce que jouer l'Euroleague signifie pour le club d'un point de vue business.
Mais président, vous connaissant, vous avez déjà dû préparer des business plans avec l'éventualité d'aller en Euroleague.
You may know me, but you don't know me that well.
Vous me connaissez peut-être, mais vous ne me connaissez pas si bien que ça. Et vous avez raison. J'y pense beaucoup, mais je dois vous rassurer. J'ai estimé qu'il était très important, non seulement pour moi, mais aussi pour l'ensemble du personnel du club, de ne pas se projeter trop loin dans l'avenir. Lorsque vous entrez dans les playoffs, tout peut arriver. Nous ne savions pas si nous allions battre Badalone. C'était un match très, très important. C'était un match à élimination directe. Il n'est pas exclu que nous ayons perdu ce match, auquel cas tout cela n'aurait pas eu d'importance. Je suis donc assez discipliné et j'insiste pour que les personnes qui travaillent pour nous fassent aussi preuve de discipline. Nous ne devons pas nous mettre en avant. Nous avons tout notre temps. Si nous avons de la chance, et je tiens vraiment à le dire, si nous avons de la chance et que nous gagnons cette série, nous aurons au moins 6 à 8 semaines pour déterminer le business plan. Et pour comprendre de la part de l'Euroleague ce que cela signifie d'être une wild card dans cette ligue et quel type de revenus nous pouvons attendre de l'Euroleague. Nous avons donc beaucoup de temps pour y réfléchir et pour discuter en interne de la meilleure marche à suivre.
David Kahn, pour finir, on va parler de l'équipe première. C'est ce qui intéresse beaucoup les fans. Vous savez quel joueur va venir, quel joueur va partir et quelle est votre ambition en termes sportifs pour l'équipe première. Est-ce que vous visez, par exemple, les joueurs français qui sont en échec en NBA ou qui ont peu de temps de jeu en NBA comme Killian Hayes, Théo Malédon, Frank Ntilikina?
So Frank actually reached out to us.
Franck nous a contacté cette année, mais au final, il a décidé d'attendre. Il espérait un poste en NBA. Nous n'avons pas été en contact avec Théo, mais il est évident qu'il s'agit de deux très bons joueurs qui ont joué en NBA. D'ailleurs, la NBA, c'est une entreprise difficile. Plus on est vieux, moins on a de valeur. Et ni Franck, ni même Théo ne sont aujourd'hui considérés comme jeunes à l'heure actuelle. Ils sont considérés comme des vétérans. Nous sommes intéressés par de très bons joueurs de basket qui correspondent au système de Coach Isalo et à sa méthodologie, qui n'est pas pour les faibles. Mais il me semble que, de loin, Franck et Théo seraient capables de jouer comme nous le faisons aujourd'hui. Ce qui, soit dit en passant, est exactement la façon dont nous devons jouer ici, à Paris. Avec un tempo élevé, une dynamique rapide.
Like in LA, showtime.
Exactement, c'est ce que j'ai dit dès le premier jour. Nous avons toujours voulu jouer de cette manière, et je me le suis dit l'année dernière, Will Weaver, il nous avait mis sur la bonne voie. Et c'était bien, jouez vite. Mais c'était aussi en raison des jeunes que nous essayions de développer. C'est ce qui nous a permis de trouver l'équilibre l'année dernière. Je pense que notre rythme l'année dernière, après Varese, c'était le deuxième en Europe. Et il faut noter que Varese, c'est la propriété de Luis Scola, qui est un ancien joueur de la NBA. Le basket évolue donc rapidement, avec un jeu plus rapide en attaque, et je suis très heureux de la façon dont nous jouons en ce moment sur le plan stylistique.
Même question avec les joueurs NBA, peut-être les joueurs NBA en fin de carrière. Est-ce qu'il est envisageable, dans un Paris Basketball très ambitieux, de faire venir, avec vos contacts en NBA, des grands joueurs qui seraient peut-être en fin de carrière? Je vous donne un exemple, Kevin Love, que vous avez bien connu en NBA, qui arrive sur la fin de sa carrière. Est-ce qu'on peut envisager que ce genre de joueur ait un contrat avec le Paris Basketball pour terminer leur carrière?
C'est très difficile, je l'ai appris à mes dépens. Encore une chose que nous avons tous apprise lorsque nous avons fait venir Kyle O'Quinn il y a 3 ans. Nous pensions qu'il conviendrait très bien en tant que joueur européen ayant arrêté sa carrière en NBA. C'est un être humain merveilleux, intelligent, drôle, c'est un excellent coéquipier. Cependant, la NBA, elle est entrée dans un état où les équipes ne s'entraînent plus. S'il vous plaît, ne me regardez pas comme si j'étais fou. Je peux vous le dire tout de suite. Il pourrait y avoir un entraînement toutes les 3 semaines. Quand vous demandez à un joueur de la NBA de venir en Europe, là où il y a de l'entraînement, c'est un choc pour leur système. Même Coach Isalo cette année, environ 5 ou 6 fois cette année, nous avons eu 2 entraînements par jour. Mais leur corps n'est plus capable de ça. Ils ne sont plus capables de s'entraîner. Et on ne peut pas changer comme ça en se mettant dans une condition où on ne s'entraîne jamais. Et puis tout d'un coup, vous arrivez dans un environnement où la pratique devient importante. Je suis sceptique. J'ai appris. Je suis sceptique quant au nombre de joueurs de la NBA qui peuvent revenir en Europe. Je pense que ceux qui le peuvent vraiment sont probablement les Européens.
Quand je commente les matchs à la Adidas Arena, je vous vois courtside et souvent, il y a des showcases d'artistes, rappeurs, et je vous vois regarder comme ça. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous les connaissez? Ou vous dites, non, bon, peu importe, mais le principal, c'est que ça colle avec la culture de Paris. You want me to translate?
You're asking, do I know the rappers?
Yeah.
Of course I do. I didn't know.
Vous vous demandez si je connais les rappeurs? Bien sûr, je ne connaissais pas le dernier, mais j'ai écouté, j'ai regardé, je connaissais Check West. La plupart des musiques que nous jouons, vous serez surpris, mais si c'est américain, j'ai déjà entendu. Après, si c'est du rap français, je ne l'ai probablement pas entendu. Mais parfois, si vous entendez une chanson, Stephen, et que c'est de notre époque, vous devez supposer que j'ai quelque chose à voir avec ça, parce que je leur envoie des choix de chansons à jouer à certains moments.
I'm old. as you heard the biography at the
Je suis vieux, comme vous l'avez entendu dans la biographie au début. J'ai 62 ans, mais j'ai commencé, comme le dit la biographie, en tant que journaliste observateur. Vous savez, je regarde probablement 120 matchs en direct par an, et puis en NBA, vous savez, je regarde notre équipe, je fais du repérage. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un en France qui ait vu plus de matchs de basket que moi. Et encore, je suis un peu malade. Je suis allé voir Milan et Bologne, puis Brescia et Tortona ce week-end, comme si j'avais besoin de plus. Je sais donc ce que je veux voir. Et je sais, je pense, ce que les Parisiens veulent. Et du point de vue du jeu, je suis vraiment fier de ce que notre équipe a accompli ces 6 dernières années. Je pense que nous faisons quelque chose de tout à fait nouveau, qui n'a jamais été fait à Paris.
That hasn't ever been done in Paris.
David Kahn, merci beaucoup d'être venu nous présenter votre projet, nous parler de l'avenir à court et à long terme pour le Paris Basketball. On vous souhaite surtout une très belle finale. Hein, on va pas vous dire qu'on vous souhaite la victoire parce que Bourg-en-Bresse mérite aussi de gagner, évidemment.
Bourg-en-Bresse le prendrait mal.
Exactement, Fred. Je suis bien d'accord avec toi. Mais merci encore d'être venu dans Basket Time sur RMC.
Merci beaucoup.
Merci à tous.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC spécial Paris Basketball. On continue. On va parler de cette finale d'Eurocup.
Nadirifi. Bah, il est gourmand. Mais il est gourmand, ça mange très vite.
Oh, quelle passe!
Un service magnifique! Ifi pour Yantounen. Paris est bien dans son match. Didier Schorff. MVP. Nadirifi. Et bien après Didier Schorff, c'est Nadirifi. C'est un couple de MVP. 93 à 85. Paris est en finale de l'Eurocup.
Zachary Rizaché qui va de l'autre côté. Odenk! À demain!
Il a de l'espace, on lui a laissé. Et il sanctionne Bryce Brown.
C'est un psychopathe lui.
Courbi à 3 points. Qui manque ? Le capitaine Maxime Courbi. Courbi pour le deuxième. Il le met ! Il est exceptionnel !
La victoire avec la manière de 26 points. Bourg-en-Bresse est en finale. Le basket français vit des heures incroyables.
Alors cette finale de l'Eurocup, donc Paris, Bourg-en-Bresse au meilleur des trois matchs, le deuxième contre le quatrième de Betclic Elite, donc évidemment, et c'est logique, on retrouve deux des meilleures équipes de la saison française. Précision quand même qu'en championnat de France, Bourg-en-Bresse a gagné son match à domicile, mais que Paris reste le favori, je pense que tout le monde est d'accord de cette finale.
17 matchs sans défaite de suite là pour Paris.
Alors favori léger ou grand favori Fred ?
Honnêtement, c'est difficile parce que quand tu vas jouer à Bourg-en-Bresse, déjà c'est compliqué. Il va y avoir une ambiance de folie. Tout le monde a annoncé déjà que c'était le match de l'histoire de la JL. Donc je pense que ça va être compliqué d'aller gagner là-bas. Donc tu te fais peur, tu perds à la maison. Ouais, je suis pas sûr que ce soit très simple pour toi. Donc favori, mais pas avec deux têtes d'avance. Quoi.
Qu'est-ce qui fait de Paris une meilleure équipe que Bourg, Arnaud ?
C'est ce système avec Thomas Lissalo, le coach, qui est absolument incroyable. Il fait des changements constants, c'est-à-dire au bout de 3-4 minutes, il va sortir presque 4 ou 5 joueurs et il fait rentrer. C'est très particulier la façon dont le coach finlandais manage les hommes.
Bah c'est pour laisser beaucoup d'énergie sur le terrain.
Absolument, garder une intensité très élevée. Et je me dis que là, on arrive à avril-mai, des périodes où les effectifs commencent un peu à tirer la langue parce qu'on commence à aller vers les 40-50 matchs joués. Bah, je me demande si Paris, qui est dans une forme de confiance incroyable en ce moment, ne va pas avoir plus de jus sur une série où on va jouer mardi, vendredi à Bourg, lundi, si besoin d'un match d'appui. Moi, je mets quand même une bonne tête d'avance pour Paris Basket.
Steve. Écoute, moi, c'est rare, mais je suis pas d'accord avec Fred, en fait, qui voit Paris légèrement favori, alors que moi, je le vois archi-favori, en fait.
Archi-favori ?
Ouais, archi-favori. Ils ont marché sur la compétition, déjà.
Ça, c'est clair. 17-1, je crois.
Une seule défaite. Une seule défaite sur toute la compétition. Alors, on va mettre un bémol quand même à la saison de Paris et de Bourg-en-Bresse. C'est magnifique, les deux clubs français en finale. Il me semble que l'Eurocup quand même a quand même bien rétrogradé en termes de niveau, avec l'absence des clubs russes, avec des clubs espagnols qui ont choisi d'autres compétitions. On est sur, c'est pas l'Eurocup quand Monaco gagne. C'est pas c'est de ça les ambiances. Mais non, c'est pas tout à fait la même compétitivité. Mais ce qu'a fait Paris en termes de chiffres, moi j'ai rarement vu une efficacité offensive comme ça. C'est fou. C'est 128 d'offensive rating sur 100 possessions, ça veut dire 128 points. C'est du jamais vu. Et en plus, le pace n'est pas si élevé que ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interceptions, il y a beaucoup de rebonds offensifs, il perd peu de ballons.
On en revient à l'intensité dont on va en parler.
Et ce qui me fait peur pour Bourg-en-Bresse, et j'ai vu ça tout au long de la saison, c'est que tu tiens l'intensité 25, 30 minutes et toutes les équipes en deuxième mi-temps, elles explosent. Parce que cette équipe de Paris, elle n'a pas de creux en fait. Elle n'a pas de creux et de baisse d'intensité avec ce système de rotation toutes les 3-4 minutes avec un banc étoffé parce qu'ils peuvent jouer à 12. C'est un rouleau compresseur. Alors Bourg-en-Bresse a des qualités de tir normalement. C'est une équipe qui met dedans énormément à 3 points. C'est une équipe qui, même en termes d'expérience, Paris Basket, il y a 6 joueurs déjà qui ont gagné la BC l'année dernière, donc ils connaissent les rendez-vous européens avec le staff.
Ça, c'est vrai.
Une finale cette année, ils ont gagné les Leaders Cup, donc déjà ils connaissent les grands rendez-vous. À Bourges, je trouve qu'en termes d'expérience, on est un petit peu en deçà, même si tu as des Axel Julien, tu as des Maxime Salah qui ont connu des matchs de haut niveau. Je trouve qu'en termes d'expérience, c'est un peu en dessous.
TJ Short quand même. Qui est...
et TJ Short, il y a la problématique comment résoudre l'équation TJ Short qui vient d'être élu MVP de la compétition. Jack Conley, c'est un bon joueur, mais le problème, c'est que des bons joueurs, TJ Short, il en a que, ça fait 6 mois qu'il rencontre des bons meneurs de jeu et il les a tous broyés. Donc, je ne sais pas comment ils peuvent matcher l'intensité. Je suppose que Freddy Fautou a déjà préparé ça comme il faut, son game plan. Et puis, c'est un peu le rendez-vous de Zachary Zaché à un moment donné, qui annonçait le numéro 1 à la draft.
C'était un peu mon point.
C'est un peu mon point.
Parce que là, justement, c'est là qu'il doit se montrer. C'est là qu'il doit montrer qu'il peut tirer une équipe vers le haut. Et je me dis, si effectivement il commence à être à droite, comme tu disais, c'est une équipe qui peut être très à droite, Bourg. Si en plus t'as Zachary Rizaché qui fait le match qu'il doit faire pour se montrer encore, parce que là ça va compter, c'est pas ces petits matchs comme ça, là ça va vraiment compter dans les esprits de tous les scouts. Et ben je me dis que c'est là que je me dis que voilà, oui Paris est favori, mais il y a 2-3 motifs qui peuvent dire que peut-être que Bourg peut matcher.
Surtout que
le fait de jouer à la maison, Zachary Rizaché et leur adresse.
Qui reste sur un 0 point contre Blois en plus, Zachary Rizaché. Donc on attend vraiment ce côté rebond.
Je me souviens de l'an dernier, la finale de la Betclic Elite. On ne peut pas dire que Wembanyama soit passé à côté, mais il n'a pas été, assez fort pour faire gagner le Valois face à Monaco, qui était beaucoup plus fort.
Oui, mais parce qu'il y avait c'était abyssal, la différence entre les deux équipes, ça n'a rien à voir. Ouais. Alors que là même si, j'en reviens à ce que je disais, et je ne suis peut-être pas d'accord avec Steven sur ça, pour moi, il n'y a pas autant de différence quand même. Il y a beaucoup moins de différence entre le Paris Basketball et Bourg qu'entre Monaco et Boulogne, qui était sur la jambe sur la fin.
Je suis d'accord. Et pour revenir sur Zachary Zaché, qui est dans un trou depuis sa commotion avec l'équipe de France, qui, je ne vais pas dire, il ne met plus un pied devant l'autre, mais c'est compliqué par rapport à ce qu'il faisait avant, même en termes d'adresse. Alors, il y a beaucoup de... C'est compliqué, un gamin de 19 ans, on a annoncé numéro 1 à la draft, les sollicitations.
Ça doit être
très
rapide dans la tête quand même, monsieur.
Voilà, et puis on arrive tard dans la saison. Mais il y a un duel, alors c'est pas le même poste, Zachary Zaché, Nadir Rifi. Parce que
on a travaillé ensemble ou quoi? C'est exactement
pas,
ce que j'ai
même pas, parce que Zachary Zaché a été élu meilleur jeune de la compétition, Nadir Rifi deuxième. Je pense que Nadir Rifi a bien la haine d'avoir été deuxième. Ouais. Je pense.
Quand c'est un danger public, Nadir Rifi énervé. C'est un danger public.
Quand t'es top 5 meilleur scoreur de la compétition dans l'équipe qui n'a perdu qu'un match, tu t'attends vraisemblablement à être élu meilleur jeune de la compète. C'est pas le cas. Donc je pense qu'il va y avoir un match dans le match. Ils vont sûrement se croiser. Peut-être que même en switchant, ils vont se retrouver l'un sur l'autre. Nadir Rifi qui a un pétard ambulant en sortie de banc. C'est quand même une confrontation qui est ultra intéressante. Après, moi, j'ai un bémol sur le secteur intérieur de Bourg-en-Bresse, même si Kokila et Bodiamassa ont fait la maille. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. L'histoire de Kokila, qui est un garçon qui est passé par la 3e division et qui aujourd'hui se retrouve titulaire d'une équipe en Coupe d'Europe. Quand vous allez taper du Leon Kratzer, du Kessens, du Simon, du Antunen, il va falloir être prêt.
Je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes sur les noms que tu viens de dire là, les Kratzer, Nadir Rifi, TJ Shorts, Banjasti, Ward, Jan Tounen. C'est pas non plus des grands noms du basket européen quand même. Qu'est-ce qui fait que ces mecs-là sont à un tel niveau? Est-ce que c'est des mecs sous-cotés par exemple?
Déjà le coach qui les fait super bien jouer, on l'a dit justement.
Bon coach. Très bon illuminé.
Très bon coach.
Parce qu'un mec comme ça qui a pas nouvelle méthode qui n'est absolument pas partagée par ses confrères, ça peut être un génie comme un illuminé. Hein.
Pierre, je vais t'expliquer. Si tu veux savoir comment est ce coach, il y a un reportage magnifique qui a été fait par Stephen Brun qui l'interroge et tu vois la mentalité du mec. Franchement, c'est hyper intéressant.
Ah, dans la forêt.
Dans la forêt.
Avec Chris Prolls qui arrive et qui chante une chanson.
Il fallait que tu aies la place, Chris Prolls. Mais c'est un coach fantastique. Franchement, c'est un coach fantastique.
Visionnaire, je trouve.
Qui, ce côté, tu joues 3 minutes à fond et je te sors et tu vas re-rentrer. Je trouve que c'est génial pour la confiance de tout son groupe. Et TJ Short, c'est un joueur fantastique. Et moi, juste pour revenir à Nadir Rifi, je pense que c'est un joueur. J'ai un vrai problème avec lui parce que je trouve qu'en termes de taille, il est sous-dimensionné pour des compétitions avec l'équipe de France. Mais par contre, c'est un joueur qui est incroyable.
Et je voudrais juste dire un mot du deuxième match, le match à Bourg-en-Bresse. À quoi faut-il s'attendre?
Le feu.
Est-ce que vraiment, ce match-là, Paris est favori?
Moi non, je te dis non.
Ça dépend
moi, je te
déjà dis, du match de soir.
Devant la mairie, il y a un maillot mais... géant avec les joueurs qui s'enlevaient moi, à un jour du match.
T'as déjà fait un match à Bourg-en-Bresse récemment
Equinox, j'en ai fait un à la salle à Amédée Mercier il y a quelques années, mais à Equinox, j'ai vu plein de choses. Non, mais c'est le traquenard quand il va
donc
là-bas.
C'est non. Donc c'est non.
J'ai vu quand même plein de matchs à la télé, tu ressens, puis tu discutes avec les gens, tu vois ce qui se passe. Bon, peut-être que Stephen en a vraiment fait, donc il peut en parler, mais c'est le traquenard. Tu vas un petit peu, c'est ce côté, on va un peu en province. La jeu, c'est tout là-bas. C'est le gros club phare de la région. Donc, c'est possible
belle salle,
que ça fasse
un. Belle salle, tu fais du bruit, très moderne. Et les gens sont complètement. Il n'y a pas grand-chose à
attaché
faire.
Attaché à leur territoire, à leur région, c'est...
Non, c'est... Après, Arnaud a raison de dire, le match 1 peut déterminer la suite de la série. S'ils prennent 25 Bourg-en-Bresse...
Oui, par contre, merci.
Alors, t'as beau être chez toi, mais moralement, tu te dis, oh, cette équipe, elle est injouable, c'est compliqué, même s'il faut gagner 2 matchs et que tu perds de 1 ou tu perds de 25. Mais psychologiquement, c'est pas pareil. Si tu te fais casser la bouche, c'est quand même compliqué. Après, oui, Bourg sur l'émulation du public, sur cette folie, sur la... Freddy Fautou est capable aussi d'amener le match sur un côté animosité. Tu vois ce que je veux dire, Fred ? Il est capable d'amener le
match. J'aimerais bien qu'il s'embrouille avec Thomas Kissalo, oui. ça serait excellent.
Il faut se rappeler quand même que Freddy Fautou, il a joué à Pau quand il y avait ses rivalités Pau-Limoges. Oui. Alors, ce genre de rivalité qu'il peut créer juste exprès. Pour que ça transforme tout le monde.
Après, le Finlandais, quand même froid comme une lame. Ah ouais, et pour revenir sur c'est un illuminé, oui non. L'année dernière, sa méthode a marché avec Bonne. Il a gagné la BCL avec cette méthode-là. Donc, ça fait deux expériences différentes. Tu vois, donc ça veut dire que ça confirme. Avec
et en même temps, c'est Paris Basket Bonne.
En ramenant donc, six joueurs, c'est ça, de Bonne à
six
Paris.
Joueurs plus le staff. Ouais. Six joueurs plus le staff.
C'est un Basket Time spécial Paris Basketball. Et vous allez nous raconter l'histoire du basket à Paris.
Rizaché. Sierra, et c'est gagné. C'est gagné! Le Paris Saint-Germain est champion de France!
Ils ne vont pas dormir jusque demain. Un public conquis, un titre conquis, une place en Euroleague, une place au tournoi McDonald's.
Nanterre est champion! Georges, on vient de vivre ensemble l'un des plus gros exploits de l'histoire du sport français.
Les gens me disent qu'ils étaient heureux parce qu'ils n'arrivaient pas à conclure, ils étaient sur un malentendu, on ne sait jamais. Donc ça c'était ma phrase, j'arrêtais pas de dire sur un malentendu, on peut gagner. C'est vrai que ça fait beaucoup de malentendus, donc au final c'est plus des malentendus.
Ouais. Jean-Claude Duss de Basket Time, c'est Stephen Brun. Alors, vous allez chacun à votre tour nous raconter une histoire d'une équipe parisienne qui a marqué le basket français. On va démarrer avec toi, Fred, le PSG Racing champion en 97. Mais grosse équipe, belle équipe. Hein.
Équipe magnifique, mais j'avais envie de choisir une équipe qui s'appelait PSG. Parce que forcément, ce qui va arriver bientôt, et justement, quand on pense à Paris, on pense forcément au PSG. Pour moi, ce PSG-là a gagné le premier titre de l'ère moderne de Paris. C'est-à-dire qu'en gros, avant, on avait gagné, je crois que c'était à Bagnolet, mais 30 ans avant, donc tu ne peux pas vraiment le considérer. Là, on est en 97, tu commences ta saison en 96, donc, et dans cette équipe, il y a Stéphane Rizaché, Richard Dacoury, Laurent Sierra, Franck Merguet, Arsène Ademensa, alors ça, c'est pour les Français.
Grosse équipe.
Et en termes d'étrangers, tu as Eric Strolens, qui a quand même fait une très belle carrière au Real Madrid après, J.R. Reid, d'accord, un joueur assez fantastique, à plus de 600 matchs NBA lui aussi. Cédal Tritt, alors lui, il va se baisser assez rapidement, mais c'est quand même un joueur qui était à 930 matchs NBA.
Un mec de la rue.
Et
la street.
Et qui est connu pour avoir remplacé Magic, tu sais, quand il a été séropositif, c'est lui qui l'a remplacé aux Lakers. Donc un joueur très fort, très reconnu et avec une équipe assez incroyable. Donc ça commence très très mal, il y a une mauvaise ambiance, c'est Chris Singleton qui en pâtit, c'est lui qui débute comme coach, mais le 2 novembre il est viré assez froidement parce que bah, voilà, ça c'est pas exactement comment ça devrait se passer. Jackie Renaud et Didier Lobez sont là, ils sont appelés à la rescousse en intérim, d'accord, et en fait il y a un coach italien qui doit arriver, Banchini, je connaissais même pas, mais qui finalement ne viendra pas. Ils vont terminer la saison avec ce duo Jackie Renaud, Didier Lobez. Alors cette équipe commence à jouer de mieux en mieux, c'est de plus en plus fort, et on l'a dit, hein, y a quand même des joueurs assez incroyables dans cette équipe. Ils se retrouvent en quart de finale du championnat de France, ils vont affronter Le Mans, et là c'est la première fois qu'ils battent une équipe significativement à l'extérieur, donc 2-0, d'accord. Ensuite ils se retrouvent contre Pau, qui termine premier du championnat, le PSG avait terminé cinquième, ils gagnent 2-1, et ensuite ils battent l'ASVEL 2-0 au match sec. Arsène Ademensa aura arrêté complètement de l'Anérode. Et tout ça pour vous dire qu'ils auront joué en plus cette fin de saison sans leur ricain Herzog. Donc ils se retrouvent à jouer sans Américains. Ils sont champions de France.
Des DBD Herzog.
Mm-hmm, très bien.
Maurice Herzog aussi. Ouais.
Très bien. Continue, Fred.
Et donc, juste pour dire que cette équipe du PSG Racing n'existera que de 92 à 2000. Alors oui, ce sera basé sur une équipe qui existait avant, le Racing de France, qui est né en 1922. Mais cette équipe PSG Racing, avec cette appellation, sera de 92 à 2000. Après, je crois qu'il y aura une association avec Levallois. Et après, Levallois prendra son envol.
Il y a eu le PBR avec Tony.
Et juste pour dire qu'après cette saison, on a commencé à miser énormément sur cette équipe. On a fait venir Bozidar Maljković. Ça ne s'est pas super bien passé. Et c'est tombé un peu dans l'oubli. Mais voilà, en 97, c'était la première équipe de Paris à gagner un titre.
De toute façon, c'est ce qui crée un peu le doute pour Paris Basketball, même si le projet est très bien lancé, c'est que des grands projets à Paris, il y en a eu plusieurs, et que les uns après les autres, ils ont trouvé leurs limites. Hein. Arnaud,
c'est la night à Paris, comme dirait
Stéphane. Tu vas nous parler des Cardiac Kids de Levallois,
ouais, fin des années 90. Ouais, quelque chose qui a vraiment marqué. Donc Levallois qui a fusionné en 2006 avec Paris, mais à l'époque, c'était un club indépendant qui est là, en proie. On est donc au milieu des années 90. Tu as Mousse Sonko, Stéphane Levergue, le papa de Geoffrey, sauf qu'en 97, problème financier pour Levallois qui est tout seul. Et ils sont rétrogradés en Pro B. Du coup, on fait appel au centre de formation où tu as des jeunes qui sont là. Sacha Giffa, Vincent Mazingue, Steve Essar, Brice Bisseni. On dit à ces jeunes qui ont 20 ans, entre 19 et 21, 22 ans, et ben vous allez aller sur le terrain en Pro B avec l'équipe première. C'est Ron Stewart qu'on connaît bien aussi dans le basket parisien qui coach ça.
Travaille chez Air France maintenant.
Je l'avais pas. Ron Stewart
il veut passer à son histoire.
Avec son assistant Raphaël Gomes qui a formé cette génération, avec Sylvain Lottier aussi, et ben c'est des fous furieux, des jeunes insouciants qui ont peur de rien. Ils sont donc en Pro B. Ils montent cette année 97-98. Ils ont même le droit de jouer une finale de Coupe de France à Bercy contre Cholet, où ils vont se faire un petit peu éclater. Stephen arrivera juste après, hein, je crois, Cholet 98. J'ai regardé si tu avais connu ça. Pour dire à tel point qu'ils sont fous, c'est Vincent Mazingue qui raconte cette anecdote, Sheet Basket Retro, hein, qui avait fait une belle page là-dessus et qui m'a servi un petit peu. Ils ont fait une virée avec la voiture de Hubert Register, qui était un Américain. Et ben, ça va se terminer à la case. Vincent Mazingue dira: on venait de voir Taxi avec Samina Seri, on avait 3 de QI et le permis depuis peu.
Et un mec qui s'appelle Bang Bang Mazingue, forcément, il va venir sa voiture.
Voilà le surnom. Découverte ensuite de la proie en 98 avec une saison marquante, même si pas de play-off. C'est un style de jeu particulier, sa course,
zone presse,
incroyable. Ils feront pas les playoffs, mais ils seront quand même une équipe poil à gratter, parce que Limoges de Fred est même tombé à Levallois face à cette équipe. C'était un beau Limoges, hein. John Amaichi, tout ça.
Alors, je me suis fait massacrer par Jacques Monclar, parce que justement, première mi-temps, je ne mets pas un panier, je me suis fait défoncer, je m'en rappellerai toute ma vie.
Voilà, il y avait aussi des bons Américains, James Scott, oui. Et tout le monde va se séparer, mais il y avait quand même un très beau cœur français et des jeunes joueurs, et en 99, tout le monde un peu se sépare et va voler de ses propres ailes, à l'image de Sacha Giffa, Vincent Mazingue, internationaux dans les années 2000.
Les Cardiac Kids de Levallois. Et Steve, on va finir bien sûr avec Nanterre, champion de France en 2013. On a entendu David Cosette là dans l'illustration dire un des plus grands exploits du basket français ou du sport français, même il a dit, je ne sais pas.
Ouais, je crois. Ouais.
C'est le cas, tu penses?
Bah, je sais pas.
Qu'il a vécu de l'intérieur.
Non, parce que sur les Sportco, c'était le plus petit budget. Deuxième saison dans l'élite et être champion de France, c'était terrasser le Strasbourg de Vincent Collet et Alexis Ajassa. C'est vrai que c'était un exploit monumental. Mais
tu en as voulu, Vincent?
Ça collait.
Ouais.
Oui, il a pu rappeler.
Après, si doit en vouloir à tous les gens qui l'ont battu en finale, il a plus beaucoup de.
Ça va lui faire plaisir.
Il va aimer beaucoup ce podcast-là.
Présente Vince. Non, mais on va parler de Nanterre. JSF Nanterre, depuis devenu Nanterre 92. C'est quand même un club qui porte le sceau d'une famille, la famille Donadieu. Puisque Pascal Le Banquier, devenu un des meilleurs coachs français, qui a pris l'équipe au plus bas niveau départemental pour l'emmener quasiment sur le toit de l'Europe.
Cette histoire incroyable.
Oui, papa Jeannot, que je l'appelais d'ailleurs, quand il était président, il n'aimait pas, qui a été président pendant 44 ans et qui est parti à la retraite en 2021 et qui a cédé sa place à son autre fils, Frédéric Donadieu. Nanterre 92, ça découvre l'élite en 2012, après avoir été champion de France Pro B. Un maintien confortable, la 11e place. Le Graal en 2013, tu l'as dit, une finale de Coupe de France perdue contre Paris, Levallois. Et ensuite, 8e place en play-off et une campagne de play-off irréelle, champion de France 3-1 face à Strasbourg. Nanterre en Euroleague.
Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là dans cette équipe?
Ouais, je ne sais pas, une alchimie. Et puis on était sur un nuage pendant un mois et demi. Après des événements un peu particuliers, puisque David Laïti, qui découvrait la France, avait perdu sa mère avec qui il avait une relation fusionnelle. Il était parti là-bas. Il avait vu sa maman décédée, il était revenu, il avait joué un match en larmes carrément. Il était, le club l'avait autorisé à repartir, finalement il était resté avec nous. Je sais pas, il y a eu comme une sorte de magie pendant un mois de play-off, parce que la saison a été correcte, on fait 8e, mais on n'a pas fait non plus.
Quand vous démarrez les play-offs, vous avez en tête de peut-être être champion de France ?
Non, jamais de la vie, parce que tu joues le champion.
Ils ont en tête de ne pas passer le premier tour.
Tu joues le champion en titre qui est Chalon-sur-Saône, qui avait fait le triplé l'année d'avant, et tu les tapes. Après, tu joues Gravelines, qui a le plus gros budget, qui a fait les saisons régulières fantastiques. Mais je sais pas, il y a un mois, pendant un mois, tout rentrait, tu faisais la passe à ton pote, tu savais qu'il allait filocher. En fait, c'est fou ce qui s'est passé pendant un mois, on n'en revenait pas. Des mecs qui n'avaient pas existé, Jérémy Enzoli, qui n'avait quasiment pas joué de l'année. Il arrive Corosine en finale contre aussi. Strasbourg, il joue, il est lancé par Pascal Nadieu, il fait les matchs de sa vie, il met 17 points, il met des dunks sur tout le monde. Vincent Collet, il n'avait même pas scouté parce qu'il n'avait pas joué de l'année. En fait, tout était irréel en fait là-dedans. Voilà, tout était irréel, donc voilà, champion de France. Ensuite, Nanterre en Euroleague, enfin, c'est la cohabitation de ces deux salles de ambiance quand même. Nanterre en Euroleague, obligé de jouer à Carpentier, ils vont gagner à Barcelone, ce qui n'avait pas été fait depuis 15 ans par un club français. C'est un exploit
tout
monumental.
Tout le monde se rappelle de ça dans le basket.
Voilà, ils se sont construits un palmarès, mine de rien, incroyable, puisqu'il y a une Coupe de France en 2014. En 2015, ils gagnent la C3 en Turquie sur un panier au buzzer de TJ Campbell. En 2017, il y a un doublé Coupe de France FIBA Europe Cup dans une finale franco-française à l'époque qui était Nanterre-Chalon. Voilà, et puis cette saison, c'est la dernière de Pascal Donadieu sur le banc de touche. Il va prendre le rôle de directeur sportif et il va pas rester bien loin non plus.
Peut-être
Pascal.
Finir champion olympique, Pascal, avec tout ça.
Peut-être,
avec une trajectoire comme ça.
Il est assistant de Vincent Collet. Pour l'instant, ils sont dans le top 5, ils ont déjà joué une finale. Ils ont
Vincent Collet, que tu as critiqué sur les finales, justement.
Oui, mais c'était une boutade. Voilà, et puis des joueurs mythiques, des joueurs qui, aujourd'hui, après, ont fait une carrière fantastique. Evan Fournier, Edwin Jackson, Adrien Moirmand, David Lighty, Eko Chafardic, Mathias Lessort sont passés par Nanterre. Et puis, il y a des joueurs iconiques du club qui ont grandi avec Nanterre 92. Ils avaient Corosine, Loïc Akono, Michael Arrelé, Jérémy Enzoli, Joanne Passave, Marc Judith, Chris Warren, Trent Mitcham. Voilà, c'est un club particulier qui a une histoire particulière et qui a quand même marqué l'histoire du basket français.
Merci beaucoup, Steve. On finit avec le quiz.
Kawhi Leonard. Ah, Carmelo Anthony, oh. Au Madison Square Garden.
Absolument pas, Stephen Brun. Vous êtes tellement mauvais, ça me fait kiffer.
Mais quel porciné peut shooter sans scrupule.
quel croquette.
Je commence.
Bah, quel salaud, celui-là.
Un indice, c'est la machine à triple-double.
Oh, yeah, Nicolas. Ah, ok, si.
Moi, je me dis Abdul-Jabbar, mais...
Abdul-Jabbar, c'est bon.
Je suis une merde.
Alors, le quiz spécial basket à Paris.
Ouais, c'est beau.
Voilà, donc ça va changer un peu d'habitude.
Super,
hein. On démarre vite avec une question facile. Donnez-moi l'affiche du premier match NBA à Paris en janvier 2020. Bulls-Charlotte.
Bucks-Charlotte.
je crois que c'est Fred qui a dit en premier. Bucks-Charlotte. C'est ça, exactement. Bravo, Fred. On devine un entraîneur. Je vous donne les clubs qu'il a entraînés. Okay,
dans l'ordre.
Pas dans l'ordre.
Okay.
Je vous les donne, mais pas dans l'ordre. Limoges.
Superbe.
Ils sont nombreux
Jacques,
à avoir.
Jacques
Monclar. Bravo, Steve.
Ah, j'allais le dire. Ah, j'étais sûr.
Évidemment, puisque le thème, c'est le basket à Paris. Jacques qui a entraîné Paris de 2002 à 2004. C'est un Racing Man, Jacques.
Ensuite, hein. Après.
Jacques, c'est un Racing Man, il le revendique. Hein.
Bien sûr.
C'est un gars du Racing, Jacques. Donc, un point pour Steve, un point pour Fred. Maintenant, je vous donne les clubs dans l'ordre d'un joueur qui a joué à Paris. OK. Vous devinez le joueur.
Bien sûr, bien sûr.
Je donne les clubs dans l'ordre. On va démarrer à hier Toulon.
Attends, juste, je voudrais une précision. Est-ce qu'il joue encore actuellement ?
Non.
C'est Laurent Sierra.
Et voilà. Fred, je ne sais pas ce que
t'as pas concentré.
T'as pris, quoi.
T'as pas concentré.
Hier Toulon, PSG Racing, Huelva, Trévise, PSG Racing, Asvel, Pagnonios,
Orléans,
Paris Basket Racing, Gravelines, Dijon, Orléans, Portez.
Lolo.
Beaucoup quand même. Hein.
Il en a pris des sous, Lolo. Hein.
Lolo, il a bien gagné sa vie. Hein. Il le dit, hein, d'ailleurs. Il est rentier avec le basket, il l'assume.
Bah, bravo à lui. En 97, le PSG Racing, tu nous en parlais tout à l'heure, affronte les Chicago Bulls de Michael Jordan.
Ouais.
Ce jour-là, côté Paris, qui porte le numéro 10 ?
Rizaché.
Rizaché, ouais.
Stéphane Rizaché, ouais, oui. Oui, c'est ça, exactement.
On va Pardon, plus... ça a commencé. Hein.
Oui, oui. Hein Et vous êtes plus près de lui, c'est normal.
Ah oui.
Oui, le son arrive
le son,
plus vite.
Oui.
Hey.
On va deviner un joueur des Chicago Bulls qui a participé à ce McDonald's Open de 1997.
Michael Jordan.
Et là encore, faut pas traîner.
Scottie Pippen.
C'est un joueur
Tony Kukoc.
Champion avec
Luke
les
Longley.
Bulls en 96, 97, 98, puis avec les Lakers en 2000 et 2001. C'est Ron Harper. On l'a oublié, Ron Harper. On n'en parle jamais de Ron Harper.
Non, les frères Harper.
On parle jamais, on parle tout le temps des autres, ceux que vous avez cités en premier, Scottie Pippen,
oui, Luke Longley, ouais, t'en parles pas non plus.
Qui viennent, on l'a pas oublié.
Non, good player,
très très good player, very good player, 5 titres, hein. Attention, oui. Hein, c'est oui. Chaud quand même. Hein. Très bien, très bien. Qui a été MVP de la Ligue des Champions 2023 ?
TJ Shark.
C'est TJ Short, absolument. Ça va vite aujourd'hui, hein. C'est plus facile, j'ai l'impression.
Je ne sais pas quand il y a la Ligue des Champions, j'y étais pas. J'attendais la BCL, ouais, je...
Oui, basketball Champions League.
Ouais. TJ Short, c'est quand même le thème du jour. TJ
oui, non, mais d'accord, mais le nom, c'est la BCL ou la Basketball Champions League.
Tu vas pas me...
La Ligue des Champions, c'est le PSG du foot, ça.
C'est un quiz Paris. Bon,
bah, tiens, bah, c'était une question subsidiaire. Qui a été nommé meilleur joueur de la saison 2022-2023 de Ligue des Champions de football? C'est écrit là.
Mytho.
Non, non, je vous jure.
De Bruyne.
Je peux vous le montrer. Non, c'est pas De Bruyne.
2022-2023.
Pas Haaland.
Haaland.
Alors, c'est Haaland.
Je dis en premier.
C'est pas Haaland.
C'est Haaland.
C'est pas Haaland.
Je te prouve que la question était prévue.
Mais bon, je te croyais.
C'est Haaland, mais quand on dit c'est pas Haaland, est-ce que ça vaut est-ce que j'accorde le point à Arnaud?
Pas vraiment, il pose une question. Il pose une question.
Pas vraiment.
Je lui accorde le point, je lui accorde le point. Ça fait 4 points pour Steve, 2 points pour Arnaud, 1 point pour Fred. TJ Short, on y revient, drafté, présenté à la draft 2019. Il n'a pas été drafté. Cette année-là, qui est le seul joueur français drafté au premier tour?
2019.
Ouais. Il y en a ça? Non, ni un ni l'autre.
Malédon?
Malédon, non.
Okobo?
2019.
Non. Okobo, non.
Doumbouya?
C'est coup Doumbouya. Oui, bravo.
Alors, c'est 15, passé par Limoges.
Dès que c'est dur, c'est frais.
Il y a un Rouen aujourd'hui.
Dès que c'est plus difficile, qu'il faut réfléchir, qu'il faut se creuser la tête. J'essaye de te flatter pour te remettre dedans.
Mais je suis dedans. Il a été à peine plus rapide, c'est tout.
Quel médaillé de bronze européen avec l'équipe de France va participer à cette finale Paris-Bourg-en-Bresse?
Accepte Fred Fautous?
Non, oui, c'est Fautou, mais bien sûr.
Bravo,
c'est
ça,
bien sûr.
Arnaud,
par contre, il n'a pas respecté son nom, est-ce qu'on valide vraiment?
Fautous.
Fautous.
Fitous. C'est Fitous de sang et d'argent. Bon, bah, c'est bon, on est arrivé au bout. 4 points pour Steve, 3 points pour Arnaud et 2 points pour Fred. Il reste une question multipoint aux enchères, elle est dure, elle est très dure. Aux enchères, Fred. Il a fait la gueule, Fred. Aux enchères, peut-être que tu as commenté ce match, donc je ne sais pas, hein, mais c'est possible. Vous allez me donner les 10 titulaires du dernier NBA Paris Game entre Cleveland et New Jersey. Il y en a 10. Combien 10 êtes-vous capable de me donner?
Cleveland, c'est Fred qui donne
New Jersey, j'ai dit Brooklyn, bien sûr. C'est Fred qui donne la première enchère. Combien, Fred?
4.
4, c'est pas mal déjà. Arnaud?
5.
5, Steve?
Je vais tenter 6.
6, Fred?
Alors, je n'ai toujours pas réfléchi à qui. Hein, mais...
Moi non plus. Là,
si j'ai la main, je réfléchirai.
Alors que je vois Arnaud noter des noms.
Alors, j'étais à 6 aussi. Non, je vois pas.
6, tu vois, ouais. Tu vas pas plus haut.
Monter à 7, Arnaud, c'est chaud.
Monter à 7, c'est chaud, ouais, mais 6, il va les avoir, Steve.
Peut-être pas.
Tu veux gagner, tu faut te dire 7.
Ouais, mais non.
Non? Alors, 6, Steve, c'est parti. Il y en a que 10. Hein.
Michael Bridges.
Michael Bridges, c'est bon.
Cam Johnson.
Cam Johnson, c'est bon.
Nick Claxton, tut.
Claxton, voilà. C'est bon.
J'aurais dû y aller.
Tu vas y être.
Mais Donovan Mitchell.
C'est évidemment, le meilleur marqueur du match. On est à 4.
Jarrett Allen.
Excellent.
Ça, c'était simple.
Isaac Okoro.
C'est bon, ça fait 6.
Voilà.
Est-ce que tu comptes, est-ce que tu trouves les 4 autres?
Est-ce qu'il y avait Mobley?
Ah, il était blessé.
Il y avait pas
Garland aussi blessé.
Garland
est blessé.
Strauss, mais je suis pas sûr si Okoro.
Max Strauss, c'est bon.
Il y avait pas Dinwiddie, il est pas.
Dinwiddie, c'est bon. Dinwiddie, c'est bon. Il vous en manque un.
Brooklyn.
Pierre Dorian.
Pierre.
Oui, tu es prêt.
Dorian Finney-Smith.
C'est gagné pour Steve. Bravo Steve. À la semaine prochaine. RMC Basket Time.